La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 38, c'est le nombre de femmes tuées depuis le début de l'année en Belgique sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. En cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, on pense à toutes celles qui souffrent de violences sans oser en parler.
Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin.
Dans notre émission ce soir, on va donc parler des violences envers les femmes. Pas des violences physiques cette fois, mais des violences psychologiques et verbales. Salope, connasse, garce, pétasse, traînée. Si vous êtes une femme, vous avez certainement déjà entendu ce genre d'injures à votre encontre, que ce soit dans la rue, en boîte de nuit, au travail ou sur les réseaux sociaux. Petit à petit, face à ces insultes, la parole se libère. Ces dernières semaines, suite à l'affaire Weinstein aux États-Unis, les langues se délient et les victimes de harcèlement se font entendre. Mais que faire aujourd'hui de ces révélations ? Comment changer les mentalités en profondeur ? On va en discuter ce soir avec nos quatre invités. Alors déjà, bonsoir à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Sylvie Losberg, vous êtes directrice études et stratégies du Centre d'Action Laïque. Vous êtes historienne, psychanalyste et vous venez de publier un livre intitulé « Toutes des salopes, injures sexuelles, ce qu'elles disent de nous ». On en parlera dans un instant. Alors à vos côtés, Céline Leroy et Bébé Luna, vous êtes comédienne, musicienne, chanteuse et vous proposez en ce moment un spectacle musical qui tourne autour de la figure de la salope et qui s'intitule « Les biches », donc le T est entre parenthèses. Donc vous nous expliquerez un petit peu ce que ça signifie. On peut le lire de plusieurs manières. Et enfin, Laurent Licata, vous êtes professeur de psychologie sociale à l'ULB, mais aussi vice-recteur donc à l'ULB en charge de la politique de diversité et de genre. Et c'est à ce titre que vous avez lancé cette semaine à l'ULB une grande campagne de lutte contre le sexisme et le harcèlement à l'université. Sylvie Losberg, on va commencer par vous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire un livre sur les injures sexuelles ?
Alors, c'est un travail que j'ai commencé il y a plusieurs années et je recueillais en fait des informations sur le langage. Parce que, en tant que psychanalyste, évidemment, c'est vraiment la matière première du travail. Et le langage véhicule finalement notre rapport au monde. Hein, c'est notre interface avec le monde. Et la question de l'injure sexuelle, finalement, nous permet de comprendre ce qui se cache derrière ces mots. Et ce qui se cache derrière ces mots, c'est finalement une vision très stéréotypée de la société dans laquelle les femmes qui s'approchent du pouvoir ou qui ont envie de prendre une place au soleil sont systématiquement ramenées par cette injure à leur seule dimension sexuelle. Et l'injure sexuelle a ceci de tout à fait intéressant, c'est que quand elle est adressée à une femme, elle met en évidence finalement une frénésie sexuelle, mais aussi la saleté, par exemple, et de manière concomitante souvent la bêtise. D'ailleurs, le mot con est devenu synonyme de bêtise, alors qu'au départ, c'est un mot très joli qui, dans le Moyen-Âge, désignait simplement le sexe féminin. Alors que quand les insultes sont adressées aux hommes, elles pointent un manque de virilité, finalement. Et donc, on voit bien que c'est l'assignation sociale, l'assignation à sexualité qui est derrière, finalement, ces insultes. Et à partir d'un travail, je dirais, historique, puisque je remonte au XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, on peut voir, finalement, comment aujourd'hui on peut s'en saisir pour essayer de modifier les choses.
Alors, je voudrais parler d'une des insultes qui revient peut-être le plus souvent, qui est d'ailleurs dans le titre du livre, c'est « Toutes des salopes », donc ce terme « salope ». Quelle est l'origine de cette insulte « salope » ? D'où ça vient ?
Mais c'est très amusant parce qu'en fait, la « hop » ou la « hup », c'est un petit oiseau qui est réputé très sale. Et donc finalement, « salope », c'est une sale petite bête qui est déjà sale. Et donc on voit bien que clairement, dans les insultes adressées aux femmes, et donc finalement, la sexualité féminine est considérée comme sale. Donc, on le voit dans le mot putain. Le mot putain vient de putérer, pourrir. Et clairement, il me semble qu'en étudiant l'étymologie, en étant au courant finalement de ce que ces mots transmettent de siècle en siècle, on peut mieux décrypter pourquoi ils sont si blessants et pourquoi finalement on arrive difficilement à sortir de cette assignation qui est finalement la première forme de violence, puisque vous l'avez dit, les violences envers les femmes sont des violences physiques et c'est un fléau généralisé, mais ça commence généralement par des violences verbales.
Mmh. Alors, salope, c'est aussi le thème que vous avez choisi, donc Céline Laurie et Bébé Luna, pour votre spectacle. Pourquoi finalement ? Parce que vous rendez une certaine forme d'hommage à cette figure de la salope. Pourquoi ?
Parce que la salope, c'est la femme qui veut justement changer sa condition. C'est celle qui veut aller au-delà des limites que la société lui a assignées. Et donc, voilà. Et puis, je pense qu'à travers le fait de parler des salopes, on parle de toutes les femmes.
Oui, en tout cas, c'est le terme qui stigmatise les femmes dès qu'elles ouvrent leur gueule, en gros, hein, ou qu'elles revendiquent soit la liberté, leur liberté sexuelle, ou de pensée, ou d'acte, ou d'agissement. Et donc, on s'est rendu compte que la plupart du temps, on se fait traiter de salope pour des mauvaises raisons. Donc, on a décidé de prendre le contre-pied de ce terme en disant, bah, ok, d'accord, on veut bien être des salopes, et bien, on va vous expliquer pourquoi on est des salopes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en utilisant ce terme de salope ou bitch en anglais, sans le T biche, hein, des femmes aussi, évidemment, qu'en fait, on abordait à peu près tous les sujets qui fâchaient au sujet des femmes, justement. Qu'en fait, on voulait faire au départ un projet sur les femmes. Et en fait, par ce prisme-là de la salope, on s'est rendu compte qu'on abordait tous les sujets qui nous intéressaient, en tout cas, de défendre sur les femmes.
On voit qu'à la base de toutes ces insultes, il y a vraiment une question aussi des stéréotypes. Alors, je me tourne vers vous, Laurent Licata. Vous avez travaillé en tant que professeur de psychologie, notamment sur cette question des stéréotypes. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la matière première de ces insultes, de ces injures sexuelles ?
Tout d'abord, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en psychologie sociale, on distingue deux types de sexisme. Le sexisme bienveillant et le sexisme hostile. Et je trouve que le titre « Les biches ou les bitches », ça reprend exactement les deux, puisqu'il y a d'un côté le sexisme bienveillant qui est lié à des stéréotypes positifs, mais ambivalents, des femmes, c'est-à-dire des compliments, de la galanterie, etc. Et puis il y a le sexisme hostile, où il y a les insultes, « bitches »,« bitch »,« salope », etc., qui est lié à des stéréotypes négatifs. Et en fait, ça correspond à des fonctions qui sont un peu différentes. Le sexisme bienveillant, ça maintient la femme dans son statut, notamment de corps sexué et de fonction de reproduction et de prendre soin des autres, etc. Et le sexisme hostile, ça punit les femmes qui en sortent. Donc, c'est quand vous vous écartez du rôle qui vous a été assigné dans les rôles traditionnels de genre, alors vous recevez les insultes quelque part.
Oui, donc oui, Sylvie Losberg.
Oui, c'est très intéressant de voir effectivement l'ambivalence du sexisme bienveillant, puisque comme ça vient d'être dit, ça maintient la femme finalement dans une image qui est celle d'un corps sexué doux au service des autres. Et clairement, quand les femmes ont tenté de sortir de ce rôle, et ça, c'est depuis que les femmes arrivent au poste de pouvoir, on le voit depuis la Maintenon, la Pompadour, mais très clairement aussi au XXe siècle, quand les femmes revendiquent le droit de vote. C'est très clairement à ce moment-là un sexisme hostile qui dit les femmes n'ont pas à être à la tribune, elles doivent être dans le lit de la République. On voit bien Edith Cresson, quand elle a été première ministre, ça a été une déferlante d'agressivité, mais ça va plus loin que l'insulte, parce que il faut quand même bien se rappeler que les femmes qui ont étaient trop dangereuses pour les places assignées de pouvoir, elles ont été carrément assassinées par les régimes. La première, la plus connue, c'est évidemment Olympe de Gouges, mais par exemple Dominique Voynet en France, on voyait des pancartes avec la tête de mort et on lui promettait la mort. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de la violence de ce sexisme hostile et du fait que finalement cette parole, elle légitime in fine la violence dont on parlait au début, c'est-à-dire finalement la violence interpersonnelle.
Oui, parce que c'est vrai que vous parlez de sexisme bienveillant, mais il n'y aurait pas nécessairement de bon ou de mauvais sexisme. On peut du coup condamner tous les sexismes ?
Non, c'est la forme du sexisme qui distingue le bienveillant de l'hostile, mais le fond serait le même en fait. Donc, c'est-à-dire maintenir un système qui est un système de domination particulier et qui assigne des personnes à des rôles, et qui assigne les hommes aussi à des rôles particuliers dans lesquels ils sont également contraints.
Oui, c'est vrai que parce que, par exemple, dans le livre de Sylvie Losberg, on voit que il y a aussi des insultes sexuelles envers les hommes, mais c'est souvent par rapport à leur sexualité. On va les traiter de tapettes, de lopettes, des choses comme ça.
C'est quand ils ne restent pas eux-mêmes, quand ils s'écartent du rôle qui leur a été assigné et qu'ils doivent jouer et parfois surjouer pour pouvoir être respecté.
Oui, donc ce qui est une grande contrainte. Oui, on pourrait peut-être dire aussi finalement que le sexisme, avant tout, c'est un système de domination. Hein, donc, qui évidemment s'exerce à partir de la dimension sexuée, puisque c'est à ça qu'on ramène l'autre, mais ce n'est pas qu'une question féministe, par exemple. C'est une question de construction sociale où les rôles de domination se perpétuent. Et je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être vraiment dans un moment où ça change. Et je suis vraiment heureuse qu'on soit ici, à la fois au niveau académique, au niveau artistique, et bon, moi, avec ma petite parole d'historienne, pour montrer qu'au fond, il y a quelque chose qui est en train de changer dans cette perception. Et ce n'est pas seulement la question des scandales, et ce n'est pas seulement la question que la parole s'est libérée. Je pense qu'aujourd'hui, on entend les choses autrement, et au fond, l'aveuglement qu'on avait, on ne voulait pas voir vraiment cette violence, et aujourd'hui, elle nous arrive vraiment en pleine figure, et je pense que ça change sans doute la donne.
Oui, vous avez l'impression que les choses changent, peut-être, oui, Céline.
En tout cas, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ça me fait penser à ce que Françoise Héritier, qui vient nous quitter, disait. C'est-à-dire que c'est la première discrimination. La discrimination homme-femme, c'est la première discrimination et qui a malheureusement donné l'exemple à toutes les autres. La femme, c'est la première étrangère. Enfin, bon, on est d'accord ou pas avec ce qu'elle dit, mais en tout cas, je trouve que c'est assez percutant comme idée.
Alors, on a déjà dit un mot. Effectivement, ces dernières semaines, il y a quand même, suite au scandale aux États-Unis, mais du coup en Europe aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui dénoncent du harcèlement, notamment. Alors, il y a les fameux hashtags balance ton porc, hashtag MeToo. Donc, on voit quand même qu'il y a une certaine forme de parole qui se libère. Or, sur la parole, Sylvie Losberg, dans votre livre, vous écrivez... La parole est à la fois le mal et le remède. Pourquoi ?
Mais parce que, clairement, les insultes sexistes, pour moi, c'est la première forme de violence. La première forme de violence est souvent verbale, donc c'est le mal, entre guillemets. Mais c'est aussi le remède, parce que je pense que la donne qui a changé aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a un espace où les choses s'échangent. Clairement, quand on est victime d'une violence, on est souvent isolé dans cette violence, parce que d'abord, on porte le poids de ce mode de victime, et que pour se plaindre, il faut se présenter comme une victime. Donc finalement, on perpétue un cycle infernal. Et aujourd'hui, il y a une collectivisation de la plainte, et donc ça se renverse. Ce n'est plus une plainte, c'est finalement une dénonciation collective. Et au-delà de ça, ce que je trouve vraiment intéressant à dire, c'est que il faut voir enfin, moi, j'étudie ça depuis une dizaine d'années, et clairement, il y a eu un changement à partir des années 2010. Pourquoi ? Parce que les filles dans les rues, par exemple, ont commencé à se réapproprier l'espace, notamment vis-à-vis dans les blogs, en échangeant la façon dont elles renvoyaient finalement, dont elles ripostaient aux attaques. Et à partir de ces blogs où les choses s'échangeaient, ben, d'autres qui étaient victimes venaient lire en disant « Ah, mais moi, j'ai aussi essayé de faire ça. Je n'ai pas tout à fait réussi comme toi, mais finalement, j'ai quand même réussi à redire quelque chose. » Et tout ça a donné lieu à tout un espace dans le monde virtuel, avec des blogs comme « Paye ta schneck »,« Paye ton journal »,« Paye ton gynéco », où les filles décryptent elles-mêmes et on s'aide l'une l'autre, et les uns les autres d'ailleurs aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les garçons, à décrypter ce qui nous arrive. Et je pense que cette construction collective, ce décryptage collectif, c'est ça qui donne vraiment de l'espoir aujourd'hui que les choses vont changer.
Laurent Licata, est-ce que ça vous semble, cette dénonciation collective, est-ce que ça vous semble une bonne stratégie de réaction face aux insultes sexistes ?
Alors on peut discuter de la forme. Moi par exemple, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour l'idée de « balance ton porc ». J'aime pas qu'on a... En général, quand on animalise les gens, même si on animalise des personnes qui méritent bien un commentaire négatif, enfin, soit. Mais on est effectivement dans une sorte de changement, là. On sent bien que ce qu'on appelait le sexisme ordinaire est en train de sortir de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des grilles de lecture qui permettent aux gens de reconnaître les situations, de les dénoncer, et ça donne des armes aux victimes éventuelles. Du sexisme, parce que on voit, les recherches montrent que la plupart du temps, les femmes qui reçoivent des remarques sexistes n'y répondent pas alors qu'elles voudraient le faire. Donc elles regrettent de ne pas l'avoir fait, mais la plupart du temps, elles le font pas. Même les études expérimentales le montrent, ça doit être aux environs de 20-25% de réponses. Donc de confronter l'auteur de la remarque sexiste. Et donc pourquoi ? Ben, les recherches, notamment les recherches de Patricia Mellotte, sur les
une personne qui est donc doctorante à l'ULB
qui est docteur maintenant, elle a défendu sa thèse
justement sur ce thème-là,
exactement sur ce thème-là, et elle montre que les craintes des femmes lors des situations, les craintes avant de pouvoir confronter, c'est de paraître désagréable, de mettre l'autre mal à l'aise, de passer pour je ne sais pas qui, pour c'est aussi le sentiment qu'on ne pourra rien y faire de toute façon. que la personne ne changera pas, même si on réagit, etc.
La peur de se mettre en danger aussi.
Et dans les situations, c'est pas dans toutes les situations, mais dans certaines situations, le danger physique ou le danger de, d'autres types de sanctions. Qui peuvent être informels, en fait, hein, être ridiculisés en public, voilà, ce genre de choses-là.
Ne pas avoir accès à certaines demandes, parce qu'on a réagi trop violemment, et du coup, on est mis sur le côté.
Ah voilà, dans un cadre professionnel, par exemple,
ça coûte cher. Ça arrive extrêmement souvent.
Mais... Bien sûr.
On nous fait comprendre qu'il vaut mieux se taire. Oui, bah, Luna, vous vouliez réagir?
Oui, en tout cas, on a tellement intégré ce sexisme en tant que femme depuis qu'on est adolescente. On nous a tellement éduquées là-dedans. Enfin, moi je suis même étonnée qu'il y ait une prise de parole des femmes sur ces questions-là. Moi, j'ai fait beaucoup de je viens du théâtre et du cinéma. Enfin, j'ai du théâtre surtout, j'étais comédienne, donc j'ai été confrontée toute ma carrière de comédienne à ces problèmes-là. Ça fait partie intégrante de ce métier-là. Et pas que de ce métier, mais en tout cas, c'est tellement prégnant dans ce métier-là. Et moi, je me souviens, jeune femme à 20 ans, d'être confrontée à des choses mais épouvantables, mais d'une violence ahurissante. Et aux yeux de tout le milieu dans lequel j'étais, c'était juste normal, quoi. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve ça formidable qu'il y ait une prise de pouvoir des femmes là, maintenant, en disant « mais non, c'est pas normal, quoi ». Et moi, je pensais pas voir ça de mon vivant, quoi. Presque. Non, mais c'est terrible de dire ça. Mais pour dire à quel point on l'a intégré, cette chose-là. Et qu'elle fait partie de notre sexe de femme.
Mais on va continuer en parler et on va continuer à parler notamment de ce qu'on propose aujourd'hui avec cette campagne à l'ULB ou d'autres pistes de solutions pour encore améliorer les choses. Mais je vous propose de faire une petite pause musicale et du coup on va vous entendre donc toutes les deux. Donc on va entendre un extrait de votre spectacle donc les biches ou les bitches. Et donc c'est une chanson que vous chantez à deux qui s'appelle Une pute à prix d'or. On l'écoute tout de suite.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je serai une pute indépendante, une pute à la Virginie dépente. Pas une pute industrielle, nourrie au cliché de la pauvre donzelle. Je serai une pute artisanale pour faire vivre les bacchanales. Je serai une pute sans obligation, une pute à ma façon. Je veux prendre mon pied ou bien le pognon, sans être ta mère ou bien ta putain. Je serai une pute de première main. Je serai une pute à prix d'or, que je vende mon corps ou bien mon esprit. Je serai une pute qu'on honore, et pas une femme qui s'ignore. Je suis une pute, car je suis une femme, telle est la devise, un constat infâme. Je le prends au mot, c'est ma condition, y a pas mieux comme piège à con.
Alors, un petit mot peut-être, un petit mot d'explication sur cette chanson. Vous voulez rajouter quelque chose
On dit beaucoup, hein. C'est évidemment une chanson en provocation, évidemment. Ça, je pense que c'est très clair. Voilà, c'est de dire, on se fait tellement... Alors, il y a deux aspects. On peut se dire, d'une part, il y a l'insulte, voilà, pute, etc. Et de dire, ok, je suis une pute, ben on va voir, on le retourne, quoi. Quelque part, et on va vivre notre vie comme on l'entend. Et puis, il y a évidemment un petit hommage aux prostituées. Il y a toute la question de leur statut, de leur reconnaissance dans la société, et ça pose beaucoup de questions. Et voilà, c'est de dire, à un moment donné, si on leur donnait un statut digne de ce nom, peut-être qu'on pourrait voir cette activité d'une autre manière.
Alors, Laurent Licata, je le disais au début de l'émission, vous êtes vice-recteur en charge de la politique de diversité et de genre à l'ULB et vous avez lancé cette semaine une grande campagne de lutte contre le sexisme et le harcèlement à l'université. Alors, pourquoi avoir lancé cette campagne ?
Eh bien, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait une demande, déjà notamment des cercles féministes, mais pas seulement, d'autres, des étudiants, mais aussi des membres du personnel, pour que cette question-là soit traitée. De traiter davantage qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Alors, l'université, c'est quand même c'est un grand groupe de personnes. Ça fait à peu près 35 000 personnes en tout. Dans un groupe de 35 000 personnes qui sont organisées avec des statuts différents, qui sont dans des contextes différents, etc. Les occasions et les circonstances qui peuvent permettre les situations de harcèlement ne sont pas rares. Et je pense que c'est la responsabilité de l'institution de prendre ça en charge, quoi.
Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de libération de la parole. On a vu pas mal d'étudiantes, en l'occurrence, qui avaient balancé leur port ou le MeToo.
Ou
en tout cas, qui s'étaient plaintes ou qui avaient fait des révélations par rapport à ça.
On avait commencé à concevoir cette campagne bien avant, enfin, un peu avant tout ça. Mais depuis lors, ça se précipite. Effectivement, on est vraiment dans quelque chose qui prend une ampleur que je n'imaginais pas non plus, en fait. Donc il y a aussi des à part nous notre campagne, c'est la campagne institutionnelle, mais à côté de ça, il y a eu des initiatives prises par des groupes d'étudiants et d'étudiantes plusieurs fois depuis qu'on a commencé à réfléchir à ça, hein. Donc ça bouge vraiment beaucoup.
Et concrètement, ça va consister en quoi, cette
Alors,
campagne?
Notre campagne, elle a trois grands axes. Le premier axe, il a commencé par une campagne d'affichage. Donc on a affiché toute une série de phrases, de petits slogans qui attirent l'attention sur des situations qui pourraient et qui auraient pu passer pour des situations anodines, mais qui en fait ne le sont pas du tout et qui sont des situations en fait de non-respect ou carrément de harcèlement, afin que les personnes puissent être sensibilisées à ça, à voir la différence entre des situations qui sont normales et des situations qui ne devraient pas l'être. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner une sorte de changement normatif qui est par ailleurs en train de se produire dans la société, mais quelque part on accompagne ce que j'appellerais un changement de culture, la sortie de l'ordinaire du sexisme, je dirais. Donc c'est le sexisme des hommes envers les femmes, mais c'est aussi l'homophobie, c'est aussi la transphobie. On a aussi des contenus à ce sujet-là. Donc ça, c'est la partie,
la première partie, donc la campagne
sensibilisation, qui pour moi est de la prévention. Puisque plus on a ce changement de culture, moins normalement on devrait avoir de comportements problématiques au niveau du harcèlement. D'autre part, nous développons aussi une meilleure prise, enfin une structure de meilleure prise en charge des situations quand elles se produisent. Nous avons mis en place un système de personnes relais, c'est-à-dire c'est des personnes qui occupent toutes les positions dans l'université, des étudiantes et des étudiants, des membres du personnel enseignant, scientifique, administratif, qui se trouvent dans les différentes facultés, dans les différents départements, etc. Et qui font qu'une personne qui serait victime de harcèlement ou de harcèlement sexuel pourrait trouver à proximité quelqu'un qui peut entendre le signalement et qui peut lui donner les instructions pour la diriger vers les personnes qui ont la formation et qui ont les compétences pour traiter la situation, l'accompagnant au niveau psychosocial, mais aussi éventuellement, quand c'est nécessaire, en allant vers une procédure disciplinaire pour les auteurs.
Alors, quand on voit Sylvie Losberg, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'ULB, quand on sait qu'en Belgique, on est un des rares pays depuis 2014 à avoir légiféré contre le sexisme, et donc il y a une
dans
vraie,
l'espace public,
on a une loi contre le sexisme dans l'espace public. Est-ce que ça change réellement les choses? Est-ce que ce sont des petits pas qui, au final, font changer les choses, ou il faudra encore faire plus pour un vrai changement de mentalité?
Mais je pense que à terme, évidemment, idéalement, il faudrait que les personnes soient autonomes par rapport à ça, c'est-à-dire que on ait en soi-même les outils pour pouvoir riposter et réagir quand il y a une situation de violence verbale ou de harcèlement. Mais ça, c'est vraiment un changement culturel qui prend du temps. Donc très clairement, je crois que tout l'éventail qui vient d'être décrit, c'est important de le mettre en place. La loi de 2014, moi je me souviens très bien, on avait travaillé dessus avec le Conseil de l'égalité pour voir si c'était praticable, et je participais notamment en France à un colloque sur cette question, et clairement, les personnes présentes disaient « Enfin, qu'est-ce que c'est que cette loi? On va quand même pas pénaliser les gens qui disent une insulte dans la rue. » Donc, il y a eu tout un travail aussi de dénigrement de cette loi, alors qu'on voit que finalement, cette loi, elle était en avance sur les mentalités, même si, évidemment, elle est difficile à mettre en œuvre. Je vous rappelle que la loi contre le racisme et l'antisémitisme, il a fallu pratiquement une décennie pour qu'on puisse vraiment l'utiliser et la mettre en pratique. Donc cette loi-ci, elle n'a que 3-4 ans. Je crois qu'il est temps de pouvoir s'en saisir, même si c'est compliqué. Mais en même temps, c'est quand même... Enfin, la loi dit la norme. Hein, et donc, la loi dit qu'on ne peut pas. Mmh. Et ça a quand même changé beaucoup de choses.
Oui. Et parce que c'est vrai que cette loi, bon, elle existe depuis 2014, mais on voit que pour le moment, il y a pas vraiment de poursuite, parce que c'est difficile à prouver. Et du coup, je me retournais peut-être vers vous, Laurent Licatas, c'est que même dans les universités, c'est peut-être aussi parfois difficile à prouver, où les étudiantes, par exemple, peuvent être mal à l'aise de dénoncer un prof, de dénoncer même le personnel administratif ou éventuellement un autre étudiant. Et ça, comment est-ce qu'on peut faire pour les mettre plus à l'aise?
Je vous dis, donc, notre solution, c'est de trouver des personnes de confiance, c'est-à-dire des personnes auxquelles les victimes potentielles de harcèlement se sentiront en confiance de parler, sans pour autant que ça mène, sans leur volonté, à un dévoilement public ou à une plainte si elles ne veulent pas porter plainte. Hein. Donc, on respecte la volonté des personnes, mais ces personnes doivent savoir qu'elles ont à disposition des personnes relais, mais aussi des personnes qui sont compétentes, qui peuvent les aider face à ces situations-là. Les conseiller, mais aussi agir pour que ces situations changent.
Ouais. Alors peut-être juste une dernière question au Beach en face de moi. Est-ce que vous avez l'impression que le fait de sentir qu'on est entendu, ça peut peut-être faire changer les choses? Vous qui avez vécu peut-être des situations de harcèlement, bébé Luna, est-ce que vous avez l'impression que juste se dire « je suis entendue, je peux être écoutée », c'est important?
Bah oui. Enfin, moi, je pense que la parole libère.
C'est une partie. C'est une partie. Oui. Comme pour moi, il faut beaucoup plus. Et je pense qu'il faut une solidarité énorme et vraiment très, très ancrée pour qu'il ne faille plus se parler, mais que ce soit acquis, qu'il n'y ait pas.
Mais qu'on sorte de cette norme qu'on a vécue jusqu'à présent, qui faisait qu'on avait intégré ce sexisme comme quelque chose de normal à vivre, enfin qu'on vivait toutes en tant que femme et que voilà, que ça faisait partie du jeu, quoi. Donc effectivement, bon, après moi, ce que j'espère, c'est que c'est pas un feu de paille et que ça va pas
faire bouger
que,
la société,
voilà,
que
ça va faire vraiment, oui, voilà, qu'il va se passer quelque chose. Mais nous, on se rend compte aussi avec le spectacle, par exemple, que chaque fois qu'on joue, même si c'est de l'entertainment et qu'on est quand même dans quelque chose d'assez léger, vous avez pu voir dans la chanson, mais bon, après on a des chansons qui sont très politiques, très revendicatrices, mais en tout cas on est quand même dans une forme de cabaret et de revue, quoi, hein, ça, d'ailleurs c'est la revue des Beach. En tout cas, on se rend compte qu'on libère aussi les gens. Enfin,
il y a une parole qui se libère aussi après le spectacle.
Des spectateurs, les gens ont besoin d'en parler. Ils viennent nous voir.
Hommes et femmes.
Ah oui. Ils veulent les textes. Ils veulent. Enfin, c'est au-delà. On nous a demandé plus souvent les textes que Enfin, les gens veulent. Enfin, chaque fois, on dit oui, vous n'avez pas le livret, etc. On veut les textes. Donc, en tout cas, on se rend compte que effectivement, la dimension de la parole libère, et les hommes et les femmes d'ailleurs, parce que je pense qu'on parle beaucoup des femmes, mais les hommes ont aussi besoin d'entendre ça. Et ça, on prend pas tellement la dimension, parce que le sexisme, c'est toujours un peu les méchants garçons, les gentilles filles, mais je pense que
c'est plus complexe. Oui, tout à fait.
Mais alors, c'est déjà la fin de cette émission, mais alors vraiment juste pour conclure, je me tourne vers vous, Sylvie Losberg, parce que je le disais donc en introduction, le 25 novembre, aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et la revendication vraiment du Centre d'Action Laïque, qu'est-ce qu'on a voulu mettre en avant cette année?
Alors cette année, nous mettons en avant ce que nous mettons en avant depuis très longtemps, c'est que l'interruption volontaire de grossesse est une violence faite aux femmes, comme la Convention d'Istanbul vient de le reconnaître en septembre dernier, et que pour nous, c'est un indicateur de la démocratie et de la lutte contre le sexisme que de donner aux femmes l'autonomie de leur corps et donc de sortir de cette place de mère. Et c'est pas parce qu'on sort d'une place de mère qu'on est forcément une putain. Et donc voilà, je pense que c'est le mot, ça pourrait être le mot de la
ça
fin.
Ça pourrait tout à fait être le mot de la fin. Et on rappelle qu'effectivement l'IVG est toujours dans le code pénal aujourd'hui en Belgique et qu'on demande toujours cette sortie du code pénal. Bon, en tout cas, merci à tous les quatre. Alors je vous rappelle en deux mots votre actualité. Ben, les Beach, vous êtes, donc votre spectacle, la revue donc des Beach se joue encore le 7 décembre à 20h30 au Sazen Jazz à Bruxelles. On peut aussi trouver toutes les informations sur votre spectacle, sur les prochaines représentations sur votre page Facebook, donc les Beach avec un T entre parenthèses.
Entre-tirés
sur le site, sur
voilà,
le Facebook,
parce que,
tout à fait.
Ouais, il accepte pas.
Alors Sylvie Losberg, donc votre livre « Toutes des salopes, injures sexuelles, ce qu'elles disent de nous », donc il vient de sortir aux éditions du Silo, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Et enfin, bah, donc la campagne campagne de l'ULB, elle se prolonge et j'imagine que pour tous les étudiantes et étudiants qui nous écoutent, ils vont voir donc ces affiches.
Ah, ils les ont sûrement déjà vues.
Voilà, dans les prochaines. Ils les ont vues, ils les verront encore dans les prochaines semaines.
Absolument.
Merci en tout cas à tous les quatre, donc Sylvie Losberg, Céline Laurie,
Bébé
Luna et Laurent Licata d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.
Enquête de sens
sur la première.